On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Écoute, Mathieu, je suis très, très inquiet de ce qui se passe en France. Je veux qu'on en reparle. On en a parlé souvent de cette violence, de cette incivilité, de cette délinquance. Ça vient d'arriver, là, c'est quelques minutes, c'était sur Le Figaro. Un jeune homme de 22 ans frappé à mort dans un parking, un mineur en garde à vue. Alors, ce jeune-là s'appelait Philippe, il avait 22 ans. Il travaillait dans un centre socio-éducatif. Il est mort de la suite de ses blessures hier, mardi, après avoir été roué de coups sur un parking situé derrière un magasin. C'est un meurtre en bande organisée. C'est une bande de mineurs qui l'ont frappé. Trois individus, ils ont voulu lui voler son téléphone. Qu'est-ce qui se passe en France? Parce que là, c'est des crimes de plus en plus violents qui sont faits par des gens de plus en plus jeunes.
Ben, en fait, c'est ce qu'on en parle beaucoup, c'est l'ensauvagement des mineurs. Hein. Le concept que Macron a utilisé avec d'autres, c'est qu'il parle d'une société ensauvagée. Maintenant, on parle de l'ultra-violence des mineurs. Ça, c'est un autre concept qu'on utilise. Et qui, c'est comme on a l'impression qu'il y a une forme d'accélération, de bascule. Je te le résume ainsi. Il y a une forme de continuum de violence pour moi en France aujourd'hui. Il y a des incivilités au quotidien qui fait que se promener dans la rue, dès qu'on quitte des quartiers protégés, se promener dans la rue peut avoir le côté d'une aventure. C'est-à-dire, on sait pas exactement ce qui va se passer. Puis à l'extrême, ben, y a les crimes terroristes tels qu'on les connaît. Mais à travers tout ça, la France devient un milieu de plus en plus inhospitalier pour le commun des mortels. La France devient un pays, puis c'est terrible, parce que c'est un pays tellement beau, tellement avec un peuple tellement formidable. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des digues qui contenaient la violence qui sont lâchées. Donc, je te donne différentes manières. Il y a les fameux mineurs isolés. Les mineurs isolés, souvent, ils n'ont, comme on dit souvent à la blague, ils sont ni mineurs ni isolés, mais ils se permettent, ils sèment une véritable terreur dans plusieurs villes en France, et on ne sait pas comment réagir parce qu'ils sont protégés par différentes conventions, des droits et ainsi de suite. Il y a la violence intracommunautaire, de plus en plus visible. Donc, quand une jeune fille comme Samara, dont on parlait la semaine dernière, commence à vivre à l'occidental, eh bien, on lui fait payer. On lui fait payer. Sa mère a dit qu'elle voulait vivre à l'occidental, eh bien, à l'européenne, à la française. Eh bien, elle a été sanctionnée pour ça. C'est quand même très grave. Il y a le terrorisme du quotidien. Ça, c'est le djihad au couteau. Le djihad au couteau, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire ça, donc on n'est plus avec le Bataclan, bien qu'un autre Bataclan est possible. Mais il y a le djihad au quotidien, donc c'est le fait d'aller poignarder les uns les autres comme ça, au nom d'une conception fanatisée de l'islam. Il y a les menaces pour les Jeux olympiques. Alors, il faut comprendre, il y a les Jeux bientôt. Puis je connais, de tous les gens que je connais, j'en connais quand même quelques-uns, j'en connais pas un qui se réjouit des Jeux olympiques qui s'en viennent. Puis pas simplement à cause du transport qui va être compliqué à Paris. Ils disent, oui, ça va être compliqué, ils vont nous faire une société hyper contrôlée pour ça. Mais on redoute, pour des questions de sécurité, on redoute vraiment les Jeux olympiques. Donc, il y a cette espèce de climat d'hyperviolence. Laurent Berton, qu'on a diabolisé pour ça, avait publié il y a des années un livre, La France orange mécanique. Puis là, on a dit, fasciste extrême droite. Je suis bien obligé de reconnaître que Laurent Berton n'avait pas tort dans sa description de la France. Donc, tout le monde le voit. Et c'est comme si on a intériorisé l'idée que cette violence était là pour rester. Mais... Donc, chacun développe des stratégies d'esquive. Les jeunes femmes ont des bonbons poivre, prennent des cours de boxe, prennent des cours d'arts martiaux, prennent le taxi plutôt que le Uber, ne prennent plus les transports en commun le soir. Tout ça, si on en a les moyens, évidemment. Ça crée un environnement absolument toxique.
Écoute, tu parlais de djihad au couteau, c'est-à-dire que maintenant, ce ne sont plus des grandes opérations terroristes où on tue 100 personnes, mais c'est un fou qui arrive dans un centre commercial, par exemple, puis qui en tue 2-3 avec un couteau. Mais là, il y a un autre terme que j'ai vu passer dans certains textes, le djihadisme d'atmosphère. C'est quoi ça?
Ouais, ça vient de Gilles. Alors, c'est de Gilles Kepel. Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste de l'islam, c'est vraiment brillant. Et Gilles Kepel dit l'islamisme a tellement progressé en France qu'il y a une forme de djihadiste atmosphère, c'est-à-dire dans certains milieux qui sont réceptifs à une conception radicale de l'islam, eh bien, il y a cette espèce d'appel au djihad qui est entendu par ceux, puis là, on dit toujours des déséquilibrés et des fous. Ben moi, tu sais, cette manie de psychiatriser tout, par ceux qui sont convaincus d'être dans une forme de guerre de revanche civilisationnelle, puis qui les amène, donc avec un couteau, ça, c'est le drame de la chose, c'est que l'attentat islamiste qui fait mal, ça exige beaucoup, beaucoup d'efforts pour le préparer, puis souvent, il est déjoué. Le type qui entend des voix et puis qui sort un couteau, puis ça va poignarder comme ça sur je ne sais quel pont à Paris, comme on l'a vu récemment, c'est plus difficile à prévoir, à contenir. Déjà que les services de renseignement français... Puis en fait, ce qui est terrible, c'est que souvent, quand ça arrive, on découvre que le type avait été surveillé par les services. Mais on ne peut pas surveiller tout le monde à temps plein, heureusement d'ailleurs, en un sens. Le résultat, c'est que ça se multiplie. Donc le djihadisme atmosphère, c'est comme une espèce d'islamisation des mentalités dans les franges radicales de certaines communautés. Puis ça pousse les plus... hardi ou les plus fous des fois bien sûr à passer à l'acte.
Mais Mathieu, on sait que dans certains quartiers fortement islamisés en France, il y a des polices des mœurs, hein, vraiment là, il y a les jeunes qui se promènent puis qui regardent si les filles sont voilées, si elles portent des pantalons, est-ce que sa jupe est trop courte et tout ça, et ils font pression auprès de ces filles-là. Mais là, ça va plus loin parce que dans le Figaro, il y a Alain Bantolila, qui est un linguiste, il dit « Dans certains quartiers, les filles se voient reprocher tout succès scolaire trop affiché. » Alors là, ça va pas seulement tes vêtements, pas seulement ta tenue vestimentaire. Là, si t'es trop bonne à l'école, OK, là, si tu lèves trop souvent la main dans la classe pour répondre aux questions de l'enseignant, si finalement t'es une trop bonne élève, là, on va aller te voir, on va faire pression sur toi en disant « Là, tu vas te calmer le pompon un peu, puis t'as trop des bonnes notes. » Écoute, c'est quoi cette affaire-là?
Parce qu'on redoute, encore une fois, on redoute l'idée que l'ascenseur social s'enclenche chez quelqu'un d'excellente note, qui s'extrait de la communauté, qui se dégage de la communauté, et ainsi de suite. Faut comprendre, moi, tous les zozos, je reviens sur un désaccord qu'on a, mais un accord finalement. Moi, j'ai une vision plus positive que toi des religions en général. Ça, on n'en a jamais fait mystère. Mais par ailleurs, j'ai pas une vision idéalisée des religions. C'est un système de coercition et de contrôle social qui fonctionne sur le principe d'imitation. Puis si tu fais pas exactement comme tout le monde, mais tu vas en payer le prix. Donc, contrains-toi. Puis c'est pour ça que le voile est si important dans tout ça. C'est que le voile, c'est un marqueur d'appartenance communautaire. Et on se voile d'autant plus qu'on comprend que si on se voile pas, on va en payer le prix. Et dès lors, la réussite scolaire est vue aussi comme quelque chose d'inquiétant. Potentiellement, pourquoi? Ben parce que c'est vu comme une stratégie d'extraction du groupe. Et puis je me permets, là, c'était le Ramadan tout récemment. J'ai une amie qui est enseignante en banlieue et elle me racontait que lorsque certains de ses collègues, par exemple, si elle est dans une école privée catho, mais elle disait quand si elle se permet de boire pendant la classe pendant le Ramadan, c'est mal vu. Parce qu'on voudrait que même les non-musulmans, parce que les musulmans pratiquent le Ramadan, ça les concerne, mais on voudrait que même les non-musulmans, en quelque sorte, le pratiquent. Dans le public, c'est encore pire souvent parce que les structures d'autorité sont plus faibles. Donc, il y a cette idée que les mœurs, enfin, c'est pas surprenant, la majorité locale veut imposer ses mœurs à la France d'hier qui existe encore dans la fonction professorale. Un pays ne change pas de population sans changer d'identité.
Écoute, ça n'a pas d'allure. Je reviens là-dessus, là. Les filles arabes, de culture arabo-musulmane, qui ont des bonnes notes à l'école, sont vues comme des collabos, littéralement, et comme des traîtres à leur tribu. On dit que féminité et intellectualité sont antinomiques, ne peuvent pas aller en même temps. Et là, il y a une jeune fille qui a témoigné, et je cite ce qu'elle a dit. a dit « Si on joue trop la bonne élève qui fait ses devoirs, qui lit comme moi, la jeune fille dit « Moi, j'aime ça lire », qui pose des questions en classe, on passe pour une renégate. C'est comme si on avait trahi notre communauté. Alors, pour pas avoir d'ennui, on se fait pas remarquer. On est silencieuse, on est discrète dans la classe. Écoute, c'est complètement débile. »
Ouais, mais c'est... Alors, évidemment que c'est débile, c'est fourraide. Mais en même temps, c'est ça qui m'énerve, hein, avec le A, avec son circonflexe, là, c'est que c'était prévisible. C'était prévisible. Quand une logique communautariste se substitue à la logique de la société d'accueil, quand cette logique communautariste est hostile à la société d'accueil, quand réussir selon les codes de la société d'accueil, c'est vu comme étant trahir les siens, ben, un moment donné, il y a des choses comme ça qui se passent, il y a des choses comme ça qui arrivent. Qui s'est imaginé qu'on pouvait changer la population d'un pays en profondeur sans que sa culture ne change? Puis là, ce qu'on voit là-dessus, c'est un choc, parce que ça nous ramène. C'est la petite fille qui voulait s'habiller à l'européenne, ou la petite fille qui a des bonnes notes, puis ayant des bonnes notes, elle a des chances de rejoindre l'ascenseur social. C'est la même chose qui est condamnée dans les deux cas. C'est vu comme un geste de trahison communautaire. Donc, à un moment donné, il va falloir comprendre. Donc là, si on veut reconquérir les âmes, les mentalités de ceux qui se sentent étrangers à leur pays d'accueil, ben ça, c'est une tâche d'une génération. C'est pas simple, c'est une tâche d'une génération.
Mais Mathieu, là, les jeunes filles qui ont des pressions pour s'habiller de façon prude et surtout pour ne pas trop briller en classe, ces jeunes filles-là sont prises en otage par des machos, là, j'imagine. J'imagine, Mathieu, que toutes les féministes françaises dénoncent ça, bien sûr, d'une même voix.
Ils n'ont pas le temps. Elles sont occupées à lutter pour l'écriture inclusive. Il faut quand même avoir le sens des priorités. Mais ça, c'est Eugénie Bastier qui dit souvent avec beaucoup, très justement, on a une partie des féministes aujourd'hui qui se bat avec une espèce d'énergie un peu étrange contre les résidus du patriarcat occidental qui, dans les faits, s'est effondré depuis longtemps, mais s'interdisent de critiquer un patriarcat d'importation, un patriarcat étranger, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air racistes. Ne pas avoir l'air raciste, c'est la chose la plus importante sur Terre pour ces gens-là. Donc, on va effectivement, on va décider de faire des gugus d'écriture inclusive. On va se dire, est-ce qu'une représentation adéquate dans telle ou telle profession, alors que n'importe qui peut y accéder selon sa liberté, sur son désir. Mais quand on a des jeunes femmes qui sont prises en otage dans des communautés, qui sont obligées de porter le voile, et là, bon, on dit non, mais ça, c'est leur choix, c'est leur libre choix, il faut respecter leur culture. D'ailleurs, l'Occident était si longtemps devenu colonialiste, de quoi on se mêle? Donc,
c'est de l'aveuglement volontaire. Ça, vraiment, c'est leur libre choix. Oui. Les jeunes filles le disent. Là, on fait l'objet de pression. On peut être battu. Il y a même des jeunes filles qui se sont fait tuer, là. On le sait, là, à cause de ça. Et c'est pas leur libre choix. C'est parce qu'ils ont peur.
Oui, bien sûr. Non, mais alors, quand même, j'ai les pires trouillards là-dedans, c'est quand même les Occidentaux. C'est-à-dire, un moment donné, On a la réalité devant soi. On ne peut pas faire comme si on le voit pas. Mais plutôt que d'aller combattre ce patriarcat d'importation qui conteste l'idée même d'émancipation féminine, on transforme notre logiciel pour célébrer ce qu'on condamnerait chez nous, en disant « c'est-tu beau, puis ça nous tire vers le haut, puis ça nous civilise de l'extérieur, puis ça nous délivre du racisme et du culte du même et de l'identité ». C'est mais je t'avoue, c'est pour ça que là-dessus j'ai une forme d'exaspération, parce que on le sait, c'était annoncé.
Ouais, mais est-ce que tu es pessimiste?
Je suis jamais désespéré. Je pense que l'histoire est riche de possibilités nouvelles, de basculements étonnants, bon, tout ça. Mais c'est difficile de pas être pessimiste sur la situation quand on regarde la France. C'est-à-dire, à l'horizon du siècle, ce qu'on pourrait appeler le peuple historique français va être dans une dynamique de minorisation. Les quartiers qui vivent selon la charia, je reprends la formule de Bruno Retailleau, vont se multiplier. Des autorités nouvelles, des autorités claniques ou communautaires, quand c'est pas le narcotrafic, ben ça compte aussi, qui font alliance quelquefois, vont se multiplier. Donc moi, je suis pas désespéré, je crois à l'action politique. Je suis pas désespéré, je crois à la culture peut convertir les âmes et les cœurs. mais je constate qu'il y a une bonne raison d'être pessimiste, ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
En tout cas, ça prend un sursaut, là, vraiment, ça prend un sursaut de la France en disant, là, on s'en va directement dans le mur et tu sais, il y a un danger de ce communautarisme-là qui est en train de gangréner de l'intérieur la France et plus en plus la délinquance, plus la drogue aussi. Vraiment, le portrait n'est pas rose. Merci Mathieu Bock-Côté, on se reparle demain.
Bye bye.
Bonne journée malgré tout, salut, bye.